Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, parce qu'il se passe toujours des choses sur la planète football. Nous sommes là en direct avec nos amis Nabil Djellit et Patrick Juillard.
Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Je suis lessivé Annie comme l'Ajax ce soir.
Ah, mais non, mais faut pas révéler les choses. Ah. Et puis, nous avons invité une troisième personne de son. On s'est dit, allez, on va animer un peu plus le studio. Cindy Colmenares, bonsoir.
Bonjour, ravie d'être parmi vous.
Oui, bien nous aussi. Alors, voilà, la jeunesse insouciante a donc renversé la vieille dame et CR7 dans son stade des Alpes devant ses tifosi. Le club de l'Ajax d'Amsterdam s'est qualifié ce soir en battant la Juventus à Turin, malgré un but donc de Cristiano Ronaldo. Les gamins de l'Ajax, dignes héritiers de l'école hollandaise, séduisent à chaque match et leur qualification semble toujours si logique. Jusqu'où iront-ils ? Au Camp Nou, le Barça a fait sa loi. Les Blaugrana n'ont laissé aucune illusion aux Diables Rouges, leur infligeant un sévère 3-0 avec un doublé de Lionel Messi. Les Mancuniens de Solskjaer, tombeurs du PSG, quittent donc la compétition sans avoir beaucoup convaincu face au FC Barcelone, ni à l'aller ni au retour. Fin de l'aventure. Quels clubs de Ligue 1 disputeront la Ligue des Champions l'an prochain? La troisième place derrière le PSG et sûrement Lille est à saisir. Et il y a trois prétendants pour un seul strapontin actuellement occupé par l'Olympique Lyonnais. Mais alors qu'il lorgne avec des arguments sur la troisième place, les Verts de Saint-Etienne sont aussi juste devant les Phocéens de l'OM. Alors qui s'imposera? Eh bien, nous essaierons d'y répondre tout à l'heure. Radio Foot, c'est parti. Il y a de quoi chanter pour les supporters de l'Ajax Amsterdam. L'épopée continue, l'insouciance l'a donc emporté sur l'expérience. Et voilà cette équipe de gamins qui joue comme des adultes, selon leur entraîneur, qui continue sa marche sur l'Europe. C'est la victoire du football, Nabil Djellit.
C'est la victoire effectivement d'un football léché. Un bol d'air frais assez incroyable dans une Ligue des Champions, généralement promis aux plus forts, aux tout puissants. Au grand joueur, Ronaldo, Messi va continuer l'aventure, Ronaldo va s'arrêter. C'est une équipe qui est à la fois surprenante, mais à la fois finalement constante et régulière, puisqu'on rappelle quand même qu'avant de balayer la Juventus, elle a quand même sorti, et on l'oublie peut-être un peu vite, le tenant du titre, le Real.
Non, on l'oublie pas du tout, parce qu'en plus, ils les ont battus à Santiago Bernabéu.
Exactement, mais tout le monde pensait, beaucoup d'observateurs, je sais que du côté des RFI, on a été assez mesurés et pondérés sur la question, parce qu'on avait compris...
Sauf Gilles Verdez.
On avait compris que cette Ajax d'Amsterdam était capable de renverser n'importe quelle équipe, et aujourd'hui, très sincèrement, on en parlera certainement ensemble, elle n'a aucun complexe à nourrir, elle peut croire en son destin et en son histoire. On verra la suite de l'aventure, mais avant tout, ce qui est agréable, c'est tout simplement du football plaisir.
Exactement, et c'est ce qu'on prévoyait, ça, même Gilles Verdez en convenait, c'est on savait qu'on aurait un joli match de football. Patrick Juillard.
Exactement, c'est la victoire du jeu, c'est-à-dire que la Juve avec un effectif supérieur, un budget supérieur... Elle a pratiquement rien proposé. Son seul but, c'est une tête sur corner. Donc, c'est pas une action construite. Et on n'a pas vu grand chose. Ils avaient encore largement le temps de renverser la vapeur lorsqu'ils se sont retrouvés menés 2-1. Il restait quand même du temps pour essayer de reprendre le contrôle de la partie. Il y a un sentiment d'impuissance s'est dégagé au fil des minutes de cette équipe. Et au contraire, l'Ajax, on sentait que à chaque attaque, ça pouvait déboucher sur quelque chose, un but. Il faisait des différences, il créait des brèches dans cette défense. Parfois, il y avait peut-être une passe de trop à la fin.
Oui.
Ça manquait peut-être un peu côté clinique dans la surface, mais malgré tout,
quelle équipe. Mais en même temps, jamais, on les voyait retourner chaque fois au charbon et à chaque fois réussir.
Et puis surtout, on a le sentiment, quand on voit jouer cette équipe, que c'est travaillé, qu'il y a des circuits préférentiels, que chacun sait ce qu'il a à faire, c'est pas n'importe quoi. Et à la fois, c'est très créatif.
Il y a du travail.
Il y a aussi un côté improvisé, classe. comme ça, un peu vif ardent dans cette équipe qui est très séduisant, quoi.
Cindy.
Oui, la jeunesse, pour moi, c'est un match absolument mérité parce que déjà, au match aller, on s'est dit, bon, bah, l'Ajax a fait un match très bon, extraordinaire, et la Juve est la V, c'est R7. Voilà ce qu'on s'est dit. Et aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'était complètement mérité, et c'est surtout, je pense, lié au fait qu'ils ont un effectif qui est jeune, qui est conquérant, qui joue un football, comme tu le disais à juste titre, Nabil, plaisir. Vraiment, on a des battants sur les terrains, tandis qu'on voyait plutôt la Juve un peu, par moment forcé et avoir du mal. Donc on a par exemple Delic qui a 19 ans, qui est capitaine, qui est déjà dans les viseurs des grands clubs français, on peut dire comme les PSG, ça reste quand même un grand club français malgré ah, ce qui se passe actuellement.
Quand même.
Voilà, mais également les Barça, puisqu'ils pourraient être pressentis au Barça, en tout cas, oui. Les présidents parlaient il y a quelques temps.
On sait qu'ils vont être dépecés, mais c'est oui. vrai surtout qu'ils ont atteint un niveau. Alors, peut-être, Nabil, parce qu'on parle du fait qu'ils s'entraînent ensemble et tout, peut-être, on n'a pas évidemment la réponse, mais que ça serait peut-être la limite de cette équipe, c'est-à-dire ils se connaissent par cœur, ils jouent ensemble, ils se complètent. On a vu Tadic qu'on connaissait pas, qui vient de Southampton et qui joue autrement et qui se fond dans un style et dans un effectif. Peut-être qu'après, éclater aux quatre coins de l'Europe, ça sera pas les mêmes personnages.
Non, mais de toute façon, il y a plusieurs aspects. Je pense que déjà, pour arriver là où ils sont, c'est qu'ils doivent bien s'entendre entre eux. Je veux dire, d'ailleurs, une excellente ambiance dans ce groupe. Il y a quelque chose qui se passe. Ils sont jeunes, ils ont une forme d'insouciance, mais ça n'explique pas tout. Ils ont un talent incroyable individuellement, ils sont déjà promis et certains sont déjà vendus.
Ils
ne
se laissent pas démonter, surtout par les aléas d'un match. Quoi. Mmh. C'est Cristiano qui marque le premier but, on peut se dire, bon, ça y est, il va en mettre 3 ou 4 ce soir.
Oui, oui, ils n'ont jamais été effectivement impressionnés, et puis ils sont d'une étonnante maturité. De Jong, sous pression, on a l'impression qu'il joue il est dans son canapé. C'est incroyable le talent de cette équipe. Alors, effectivement, il y a l'ADN, il y a la philosophie de jeu de l'Ajax d'Amsterdam, donc il y a un football total, hérité, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Cruyff, mais il y a aussi une équipe qui a été construite intelligemment. On a optimisé, rationalisé au mieux les moyens. On a choisi apparemment les bons hommes. Tadic, vous avez raison d'appuyer sur ce joueur. Finalement, Tadic, il ne jouait qu'à Southampton. Aucun gros club anglais n'est venu le chercher et il trouve toute sa place dans ce collectif de l'Ajax où il joue en une touche d'une manière incroyable. Il a peut-être battu le record de talonnade de Tadic sur les deux derniers matchs. C'est exceptionnel. On va parler également d'un joueur qu'on va voir lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui n'est pas formé à l'Ajax, il arrive des Raven.
Privé d'un but sur hors-jeu ce soir.
Donc c'est aussi une équipe qui a été bien construite, et parce que pourquoi il y a une institution Ajax. Marco Overmars, le directeur sportif, il a fait les bons choix également. Et franchement, ce qu'ils réussissent là ce soir et depuis qu'ils sont dans la compétition, pas une seule seconde, j'aurais pu l'imaginer en toute sincérité.
Non, mais on a envie d'être derrière eux parce qu'on les remercie de cette manière-là de nous offrir un tel spectacle.
C'est ça, il y a un fait quand même qui remonte à l'été 2017 qui a soudé cette équipe, c'est l'accident cardiaque du jeune Abdellah Nouri, qui était un jeune néerlando-marocain qui jouait à l'Ajax dans la même équipe et qui a eu un malaise très grave pendant un match qu'on a donné pour mort, qui a mis du temps à un peu échapper au coma. Et je pense que ça a donné un supplément d'âme et ça a soudé ses camarades qui maintenant se battent un peu pour lui. Il l'appelle Happy, c'était son surnom, A2PIE, pas Happy comme heureux. Et voilà, je pense que ça aussi contribue à faire de cette équipe une équipe aussi soudée et collective. Et puis vous disiez, Annie, que ça donne pas forcément les mêmes étincelles quand ils sont éparpillés. Il y a quand même des joueurs passés par l'Ajax qui ont fait des belles carrières. Oui. Bon, on a Eriksen à Tottenham qu'on verra demain soir.
Suarez,
Zlatan Ibrahimovic, Pienaar, enfin il y en a beaucoup. Hein. Maxwell.
Oui, mais c'est surtout là ce qui nous donne actuellement. On aimerait les voir dominer l'Europe
longtemps, mais malheureusement l'économie du football n'est plus ce qu'elle était avant l'arrêt Bosman.
Il y en a, ils sont déjà vendus, mais on les verra la saison prochaine, la moitié je pense, dans des grands clubs européens. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qui va arrêter cette équipe de l'Ajax.
Jusqu'où iront-ils? Oui, Cindy.
Non, mais je le vois aller très très loin. Enfin, est-ce qu'ils ont déjà battu les Bayern? Vous vous rendez compte? Ils battent le Real Madrid au Bernabéu. Maintenant, ils battent la Juve des CR7 quand même. Moi, je pense qu'ils sont prêts à gagner la Champions League. Moi,
j'y crois. Oui, ils n'ont pas de complexe à faire.
Ça, c'est une très belle victoire.
Alors, si hier, affreusement, le toit de la cathédrale de Notre-Dame s'écroulait un peu sur la tête des Parisiens, eh bien, j'imagine que ce soir, c'est le ciel qui est tombé sur la tête des Turinois, voire de tous les Italiens. Et c'est la question qu'on va poser tout de suite à Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir, bonsoir de presque tous les Italiens, parce qu'il y en a pas mal qui sont extrêmement contents ce soir, tous ceux qui détestent la Juve. Et il y en a beaucoup en Italie, il faut le dire.
C'est comme en France quand le PSG perd, Matteo.
En effet. Non, Mamma Mia, vraiment, Mamma Mia, ça fait vraiment mal ce qu'on a vu ce soir. Pour la Juve, bien entendu, une déception immense, un rêve brisé. C'est comme on pourrait même dire que c'est toute une saison qui ce soir change de goût. Un goût très amer, et ce ne sera certainement pas un scudetto qui pourra changer cette saveur désagréable. Une saison qui termine là pour la Juve,
Matteo, qui avait tout mis. Matteo, oui. Avant de parler de la Juve et des conséquences, juste une chose. On avait vu la saison dernière le stade de Turin, un moment qui avait applaudi Cristiano Ronaldo, son art et son retourné, on s'en souvient tous. Est-ce que là, ce soir, vous avez senti que le public de Turin était peut-être sensible quand même à ce football magnifique que jouait et qu'offrait au public l'Ajax d'Amsterdam?
Ouais, plus que le stade, parce que le stade était vraiment gelé. On a vu les supporters sous le choc total. C'est plutôt les médias, les journalistes, tous ceux qui ont assisté à ce match, qui ont seulement parlé vraiment de la grandeur d'une équipe, l'Ajax, qui a ébloui, qui fait vraiment rêver. C'est comme si on était retourné un peu en arrière dans le temps, dans les années 70, avec le jeu total. Des Pays-Bas entraînés par Rinus Michel. Donc les journalistes, vraiment, plutôt que parler de la défaite de la Juve, et ça c'est assez étonnant, ils ont vraiment applaudi la victoire de l'Ajax.
Alors Turin, effectivement, c'est un coup de massue pour le club, parce qu'ils avaient investi dans un atout qu'on croyait maître, qui est Cristiano Ronaldo, qui avait été recruté assez cher quand même si pour Cristiano ce n'était pas si cher, 100 millions d'euros, mais justement pour essayer de franchir ce cap. Eux, ils sont déjà allés en finale, mais le cap, c'était de la remporter, cette Coupe d'Europe.
Absolument, oui. Ronaldo, ils ne l'ont pas acheté pour gagner un 8e Scudetto d'affilée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin d'un Ronaldo pour gagner le Scudetto. Ils l'ont recruté pour gagner cette, et je dirais, entre guillemets, maudite Ligue des Champions pour la Viedane.
Les Parisiens vous comprennent.
Bon, enfin, au moins, Ronaldo, à la différence de Neymar, lui, il joue, quoi.
Oui, c'est surtout que la Juve ne gagne pas depuis 1996 quand même. Elle est interdite.
Un an après la dernière victoire de l'Ajax.
Ouais, c'est...
Non, mais ce soir, Annie, très sincèrement, la Juve, on a vu leurs limites pour parler de la Juve. L'homme providentiel, tout le monde attendait l'exploit de Ronaldo.
C'est vrai.
D'un côté, on a eu un football abouti, collectif
oui.
Voilà, avec des circuits préférentiels, une idée de jeu. Mais finalement, on attendait quoi ce soir du côté de la Juve? On attendait des centres dans la surface pour que Ronaldo vienne les couper.
Et bien finalement, il y a justice, parce qu'on s'est dit que de toute façon, le football, c'est un sport d'équipe. Et donc du coup, c'est bien mérité que ce soit l'Ajax qui l'emporte. C'est aussi simple que cela.
Matteo, c'est un peu la faillite de cette, peut-être de ce calcul de la part de la Juventus. On sait qu'ils aiment ou ils essayent de gérer un résultat. Et c'est vrai que finalement, le résultat... pouvaient les arranger. En rentrant sur le terrain, ils étaient qualifiés.
Et ils ouvrent la marque en plus.
En plus.
Oui, écoutez Annie, c'était un match où il pouvait y avoir des pièges. Ça, c'est assez prévu. On l'imaginait et on l'a même remarqué si on regardait bien le visage de Max Allegri hier en conférence de presse, qui était étonnamment très tendu. Il était très tendu, mais je dirais presque angoissé. Il était là en train d'expliquer aux journalistes que devait faire son équipe pour passer le tour. Ils n'ont pas entendu ces mots, les joueurs. Mais c'est peut-être plus correct de dire que l'adversaire a empêché au Bianconeri de mener le jeu, de faire un pressing très haut, comme on l'a vu faire dans les 20 premières minutes. Donc c'est vraiment l'Ajax qui a eu du courage, un courage énorme ce soir. Laisser la Juve, disons, accomplir son maximum effort dans les 20 premières minutes de jeu, pour ensuite pousser sur l'accélérateur et mètre après mètre, ils ont vraiment dévoré le terrain et assommé une vieille dame qui ce soir aura besoin d'un docteur à son côté pour se remettre de ce chaos incroyable et à mon avis historique.
La vieille dame va aller dans un EHPAD, Mathéo.
C'est les urgences. Mais en plus, vous vous étonniez pendant le match, Patrick Juillard, d'une certaine, peut-être, méforme physique de la part de la Juve.
Ah oui, moi j'ai trouvé surtout qu'il manquait, comme on dit, de gaz, de carburant. C'est-à-dire, il y a Jeep qui est écrit sur le maillot, mais il y a pas d'essence dans le moteur. Hein. C'est une Juve qui m'a semblé ne pas avoir de plan B. Je pense que leur idée était de marquer en premier et de laisser venir et de gérer. Et du moment où l'Ajax a réussi à égaliser rapidement et à mettre le doute, il y avait plus du tout de, ils ont pas su changer leur fusil d'épaule et j'ai trouvé surtout que ça manquait de gaz, quoi, de répondant physique, quoi. C'est, ça m'a frappé.
Cindy, en plus, on a l'impression quand même, comme le veut l'expression sur le papier, il y a quand même un sacré nombre de joueurs, en dépit de ceux qui étaient absents ce soir, et je pense à Mandzukic, mais il y avait beaucoup de bons joueurs en plus dans cette équipe de la Juve ce soir.
Oui, mais je pense que
Il n'était pas tout seul, Cristiano.
Et oui, évidemment, mais je pense que peut-être qu'il souffre un peu du même souci, c'est qu'à force de trop s'y passer sur Cristiano, qu'il vienne finir les actions et qu'il vienne marquer, bah, il passe ce qu'il se passe.
On avait Dybala, après, on avait Pjanic.
Dybala, vous avez raison, parce que Dybala, la sortie de Dybala à la mi-temps, leur a fait du mal.
C'est sûr.
Il a plutôt été, d'ailleurs, sur le but, il est concerné, hein, le but d'ouverture du score de la part de la Juve. Donc ça a été un peu une perte sèche. Manque d'idées, manque d'inspiration. Je pense que Matteo le sait mieux que moi, depuis 3-4 mois, c'est un peu moins bien. La Juve, même en championnat, ils sont leaders, ils vont être champions, c'est une certitude. Il y a aussi des interrogations sur les profils de joueurs qui ont été choisis. Pour moi, en termes, bon, moi je trouve que ça manque de talent, en fait. Je trouve qu'il y a un peu trop de coureurs à pied, excusez-moi l'expression, quoi. Ça bourrine un peu trop. Au milieu de terrain, ça manque de technicité, c'est mis à part Pjanic.
Tandis qu'à l'Ajax, ils sont des lignes, donc ce sont des jeunes qui amènent
Van de Beek, beaucoup de bons joueurs. Non, mais je trouve aussi que des joueurs n'ont pas donné ce qu'ils donnent habituellement. Un Bernardeschi, c'était
qu'on
une
avait
déception.
Contre l'Atlético.
Chan, je l'ai trouvé nerveux et pas toujours inspiré. Et il y en a d'autres dans le même cas. Donc,
c'est lui qui m'a surpris un peu côté Ajax, c'est Neres, parce que bon, à l'aller, il a été quand même assez génial, et là, on les voyait un peu
plus maladroit.
Invisible, non, maladroit.
Attendez, donc, très sincèrement, pour dire les choses clairement, si l'Ajax est une équipe avec plus d'expérience, du coup, quelque part, ce qui lui permet d'avancer, c'est son insouciance, son expérience pourrait peut-être la freiner dans certaines situations, mais avec plus d'expérience, plus de vécu, il y a des situations, franchement, ça peut finir avec plusieurs buts d'écart. Il y a des situations, ils veulent rentrer avec le ballon dans le but.
Ils font une passe de trop, parfois.
Ils font des extra passes. Je veux dire, Ziyech, il aurait pu terminer plus d'une fois. Neres, il aurait pu terminer d'une fois. Et Tadic, parfois, au lieu de frapper, préfère faire des talonnades. Très sincèrement, ils auraient pu repartir avec deux ou trois buts d'écart sur ce match.
Matteo, est-ce que finalement ce résultat, et alors ce mauvais résultat, puisque les Scudetto, ils les enchaînent. D'ailleurs, ce week-end, un peu à la mode du PSG, ils n'avaient pas réussi à décrocher leur titre aussi, à être sacrés champions. Est-ce que peut-être que Massimiliano Allegri est un peu contesté?
Bah écoutez, j'attends demain matin les journaux parce que je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un en ce moment même qui se demande maintenant qu'est-ce qui va se passer à la Juve, car vraiment sur le banc des accusés, et vous pouvez l'imaginer, il y aura Max Allegri qui devra expliquer à l'opinion publique cette incroyable involution, régression de son équipe en deuxième mi-temps. Ils sont complètement disparus. Pour revenir à Paul Dybala, ça devait être vraiment sa soirée. Il est rentré sur le terrain avec le brassard de capitaine qui montre que Max Allegri avait pleine confiance en lui. Il a joué, à mon avis, une bonne première mi-temps, mais ce coup fatal au genou l'a mis KO. Et là, je crois que la Juve a vraiment perdu peut-être quelque chose d'important au niveau offensif, parce que, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais Bernardeschi aujourd'hui était vraiment l'ombre de soi-même. Ce n'était sûrement pas le Bernardeschi qu'on a vu avec l'Atlético, et même il y a une semaine avec l'Ajax.
Et pourtant, on sentait qu'il y avait des tensions entre Dybala et Allegri. En fait, on disait que ça allait pas trop. Et du coup, l'effet qu'il lui ait fait confiance aujourd'hui, c'était quand même assez étonnant.
Ça ne va pas s'améliorer. Et après, pour y a un élément qu'on a oublié de citer, il y a un garçon qui avait fait une entrée très intéressante à l'aller et qui s'est blessé entre-temps. C'est le Brésilien Douglas Costa qui était en tribune parce qu'un Douglas Costa serait directement suppléé ou pallié la blessure de Dybala. Mais moi, je ne cherche pas d'excuses à la Juve. Je suis désolé. Elle a quand même, vous avez raison, Annie, de rappeler qu'elle a quand même des joueurs qualitativement de très haut niveau. C'est des internationaux de grande sélection nationale.
Bah, en Argentine, on dit que Dybala, c'est égal Messi. Enfin, c'est lui qui viendrait remplacer Messi.
Faut pas dire ça ici, Cindy, vous allez
là, si vous dites ça, Alejandro Valentin, mais non, ne va pas dormir de la nuit.
Et d'ailleurs, ben, vous savez pourquoi? Parce qu'on dit souvent, en tout cas, côté argentin, non, les gens
il n'a pas du tout son niveau pour l'instant.
Non, mais il viendrait remplacer. Et d'ailleurs, en Argentine, les journaux, ce qu'ils disent, c'est, mais bordel, il y a exactement les mêmes problèmes entre Messi et Dybala, c'est que les deux brillent du coup en équipe internationale et donc, dès qu'ils viennent en Argentine, c'est pas trop ça finalement. Ouais. Bon, aujourd'hui, on ne pourra pas dire ça.
Matteo, un petit mot, un dernier mot sur cette Juventus et sur cette débandade?
Le petit mot, c'est que la saison est terminée ce soir pour la Juve. Ils n'ont plus rien à dire. Ils peuvent même aller en vacances parce que samedi soir, ils vont gagner leur 8e Scudetto. Ensuite, ils garderont la finale de la Ligue des Champions, même la finale de la Coupe d'Italie où on pourrait trouver l'AC Milan. Là, je vous le dis comme ça. Et ben, vous savez, dans une soirée aussi négative...
On a compris le petit message subliminal.
Oui. Non, il n'y a rien de subliminal. Il y a seulement une chose à dire, qu'il y a une équipe en Italie qui arrive à gagner la Ligue des Champions. C'est l'AC Milan, mais ça, c'est l'effet. Non, je rigole.
Non, on vous connaît.
J'attends vraiment la presse demain. Qu'est-ce qu'ils diront à propos du futur de Max Allegri? À mon avis, il y a quelque chose qui va s'ouvrir de très intéressant. Il y a des changements dans l'air.
On commence à lire sur les réseaux sociaux en français, Matteo. Je vous le dis comme ça.
Matteo, juste une petite question. Est-ce que vous pensez que Antonio Conte pourrait faire son retour?
Vous voulez mon avis? Absolument pas, parce que Conte, on le donne très, très, très proche.
Au Bayern.
L'Inter.
Ouais, il y a quelques mois, on l'a vu sortir du siège de l'Inter ici à Milan. Il est allé discuter avec Marotta. Et à moins que Spalletti n'arrive à faire un miracle, comme par exemple terminer cette année en deuxième position, je ne crois pas qu'Antonio Conte sera le renouveau entraîneur de la Juve.
Eh bien voilà, merci beaucoup, Matteo.
On ne sait jamais. Vous avez vu ce soir, dans le football, tout est possible. Mm-hmm. Même d'avoir revu une équipe qu'on ne voyait pas depuis quoi, 50 ans. Voilà.
50 ans, il est un peu sévère. Hein.
Et qui ressemble beaucoup à l'équipe d'Ajax qui brille avant.
Je parle de l'Ajax, je parle du foot néerlandais qui,
bien sûr,
avec son jeu total, est retourné ce soir. C'était en 74, si je ne me trompe pas, 73. Non,
oui.
Donc voilà.
Ils ont brillé après quand même aussi. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en direct avec nous d'Italie pour nous faire part de tout cela. Et donc, eh bien, la Juventus, nous allons clore le sujet, bien, quand même, en écoutant ses buts de la soirée, et notamment Cristiano Ronaldo.
L'arbitre n'a pas levé son drapeau.
Non, mais il va
alors
l'avoir.
On va voir, ouais. Van de Beek pour l'instant.
But.
Un partout. Réaction immédiate des hommes d'Eric Ten Hag.
Attention, corner de Chaudry.
Oh, ça y est, c'est de l'île. C'est pas vrai. C'est de l'île.
La jeune garde de l'Ajax.
Ils vont le faire.
Continue d'être insolente. Et la vieille dame est tombée.
Alors, il y avait un autre match quand même ce soir aussi qu'on a essayé de regarder, mais c'est vrai que c'était dès le début, on va dire qu'on a été mis au parfum. On avait compris que ce FC Barcelone qui avait déjà gagné son match aller à Manchester sur le score de 1-0 des pieds de Lionel Messi, eh bien, ils allaient refaire le match et même en mieux. Ils ont finalement battu 3-0 Manchester United. On peut pas dire qu'on ait vu beaucoup Manchester United, Cindy Colmenares,
non,
ce soir.
Au fait,
on a pas été...
Non, hein, au fait, c'est Messi. Il arrive et il plie les matchs au bout des même pas 20 minutes, en fait.
Donc,
on
un
a
doublé.
Surtout... Oui, mais on s'y attendait quelque part parce qu'on s'est dit que le Barça, il n'a pas été battu en C1 en réception, en fait, depuis 2013 au Camp Nou. Ils sont à 27 victoires lors de ces, 3, de ces 30 dernières réceptions européennes. Donc, en fait, on s'attendait à un Barça qui allait classer Manchester. Et surtout, on peut se dire que Manchester... avait-il vraiment les niveaux pour être là? En fait, c'est vraiment grâce au PSG que les Manchester
United. Vous posez la question, nous on peut vous donner la réponse.
Ils n'ont pas... Non, mais ils n'avaient clairement pas les niveaux et ça, tout le monde en est conscient, je pense. Donc, du coup, là, les résultats du Barça, c'est juste ce qu'on s'y attendait.
Il y a eu aussi des erreurs, peut-être, du côté de Manchester. On pense à l'erreur de Rea sur le deuxième but
avant
de Messi. Hein.
Oui, les où deux il attrape pas vraiment les ballons.
Ça avait bénéficié au Manchester United, n'est-ce pas, dans un certain match au Parc des Princes.
Mais c'est très paradoxal parce que d'une certaine manière, le Barça était à 1000 km au-dessus de Manchester United. On sentait bien que c'était implacable et qu'il n'allait rien se passer pendant ce match. Mmh. Et d'un autre côté, si on regarde les buts, c'est pas des buts construits à la catalane comme on aime avec des redoublements de passes et des mises hors de position. Ouais, là, c'est juste
quelque temps qu'on a
des erreurs de défense. Messi qui récupère le ballon, qui se met en position et qui met deux frappes. La première qui est absolument magnifique au ras du poteau et la seconde qui est moyenne plus et qui bénéficie d'une énorme faute de main, enfin une énorme faute de corps, on pourrait dire, de De Gea qui laisse passer le ballon sous son ventre. Mais après, c'est pas un Barça qui a été étincelant, mais finalement, ils ont... peut-être eu raison, il n'y avait pas besoin d'en faire plus pour mettre trois buts d'écart à cette équipe-là. Donc,
non, et puis Manchester, c'est vrai que ce sont eux qui ont commencé avec en train d'être dominants, donc
c'est
on
vrai,
pouvait
y
croire,
occasion...
on disait bon, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de suspense, mais finalement, on s'est rendu compte que la réalité...
Juste avant le but, il y a une occasion nette pour Rashford qui ne négocie pas bien.
Est-ce qu'on a retrouvé d'une certaine façon un Manchester United qu'on voit peiné ou irrégulier en championnat après les matchs fulgurants de la du départ de José Mourinho.
Il y a un contre-coup à l'effet Solskjaer en quelque sorte. Bon, après, il y a deux lectures possibles. Moi, je pense que la Ligue des Champions pour Manchester United, c'est du bonus. De toute façon, c'est plus le Paris Saint-Germain qui a perdu le match en huitième de finale que Manchester United qui l'a gagné. Mais ils ont fait le job, tant mieux pour eux. Après, cette équipe, on connaît ses limites. Elle a été libérée mentalement, soulagée mentalement par Solskjaer. Ils ont repris du plaisir à jouer ensemble. Après, malheureusement, il y a quand même des limites qu'on connaît en défense, sur les côtés. Ashley Young, ce soir, c'était pas Forever Young, hein, excusez-moi l'expression, Annie, pour ceux qui étaient fans de ce tube dans les années 70 ou
80,
je sais pas exactement. Je crois que c'était Alphaville qui chantait ça.
Un groupe allemand.
Laurent Salerno pourrait presque nous trouver ça.
Mais c'est la version rapide qu'il faut mettre.
Après, autour de Paul Pogba qui a attendu, il a été un peu porté disparu. Il a été battu par le milieu de terrain du FC Barcelone. L'animation, elle est compliquée. On peut compter sur la vitesse et transition offensive autour de Rashford. Lukaku a peiné également à exister. Bon, quart de finaliste, top 8 européen pour Manchester United. Très sincèrement, c'est bien payé. Autant pour l'Ajax.
Une saison si difficile.
Ouais, voilà. Autant l'Ajax, c'est comme nous l'a dit Matteo tout à l'heure, c'est retour vers le futur. Autant Manchester United, c'est déjà demain et on a hâte de savoir quel va être le Manchester United de la saison prochaine.
Et pourtant, on attendait des transitions rapides. On s'était dit, bon, là, ils ont mis Martial, ils ont mis Lingard, donc il va y avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus explosif, de la vitesse. Ils vont venir
Messi,
à l'attaque, mais finalement...
Ils étaient trop bas, ils récupéraient le ballon trop bas, ils ne pouvaient pas.
Et après, on ne le dit pas.
Le delta était trop grand et pourtant, je répète, c'est paradoxal. Le Barça, à la fois, a été très dominateur, mais finalement... C'est pas étincelant. Hein. Moi, je n'en ferai pas encore le grand favori.
Mais ils sont en demi-finale.
Mais il y a Messi, oui, bien sûr.
Ils sont pas favoris, ils avancent.
Non.
Ils passent le tour précédent, tranquille. Ils ont Manchester United, ils sont en gestion, tranquille. Si vous demandez à Messi et compagnie s'ils ont souffert ce soir, je suis persuadé que si vous demandez à Messi, je veux dire, c'est exceptionnel.
Il souffre jamais, Messi.
Non, mais il souffre pas. Vous lui mettez Leganés ou Huesca, ça se trouve, il a parfois plus de mal que face aux défenseurs de Manchester United. Fred, là, le Brésilien, qui est plutôt un bon joueur, il l'a démonté avec un petit pont assez exceptionnel et derrière, il fait sa spéciale, il cherche la bonne zone de frappe, mais il est au sommet de son art, c'est incroyable. Je crois qu'on ne réalise pas.
On voudrait l'avoir comme ça en Argentine, si, par contre.
Ah oui, là, par contre, on
va il est un peu seul.
Contre les Venezuela,
il est un peu seul. Ah oui, c'est vrai. Pardon. On a oublié l'Argentine, corrigée par le Venezuela. Notre ami est vénézuélien.
C'est un très grand joueur, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on continue à lui dire toujours, c'est qu'il est très grand au Barça et malheureusement.
Oui. Mais malheureusement, il a des circonstances atténuantes. En tout cas, on va l'écouter, Lionel Messi, parce que Lionel Messi, il est aussi content ce soir de voir son équipe franchir un cap. Ça faisait 3 saisons que le FC Barcelone ne passait pas le stade des quarts de finale.
Mais ce qui est important, c'est d'avoir atteint notre objectif, passer en demi-finale, c'était ce qu'on voulait. C'est un petit pas de plus. De toute façon, je suis heureux de cette victoire et de la manière dont on a gagné. Maintenant, on est en demi-finale, ça va être très difficile, ce sera Porto ou Liverpool. Et donc, au-delà, on ne va pas se projeter trop, mais on a fait un très grand match. Et toute équipe est dure à jouer, de toute façon, que ce soit Liverpool ou Porto, sera très difficile. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est les meilleurs qui sont ici, ceux qui le méritent. Ce sera très compliqué.
Ce sera très compliqué, dit Messi. On a du mal à le croire quand il dit
non,
ça.
Non, mais au moins, lui, c'est le plus grand joueur de la planète. Et puis, en plus, il cultive l'humilité, ce qui est plutôt agréable. Très sincèrement, c'est une leçon, quoi. Je veux dire, quand vous avez un joueur comme ça, bah, vous êtes content d'avoir un joueur comme ça dans votre équipe. Il fait le boulot, il fait tout. Il fait le service, il fait la table, il fait la vaisselle, il fait tout.
Cette année, c'est vrai qu'on avait eu l'habitude de la MSN. Ouais. Suarez est un petit peu moins performant. Et finalement, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'un M dans cette équipe.
Il y a Coutinho. Il a pas été si mal
c'est
que ça, en fait.
Aussi.
Il a fait 3
match,
buts,
ouais.
3 assistances, et en 10 matchs, là, en Ligue des Champions. Donc, ils lui ont donné sa chance. Je pense que dans cette équipe, justement, évidemment, il y a un leader, c'est Messi, et il est incomparable. C'est
avant, pas il partageait plus, les contrats, là, mais il a pris les responsabilités.
Même, oui, il y a quand même Suarez et Coutinho qui font leur job.
On a vu notamment Coutinho, lorsqu'il a marqué son but, tous ses copains sont allés le féliciter et tout.
Oui.
On connaît la difficulté qu'il a dans cette équipe actuellement et c'était peut-être un signe intéressant quand même.
Absolument, ça va faire du bien psychologiquement parce qu'il est dans le dur. On parle de départ de plus en plus. Et si des mouvements ont lieu, c'est vraiment on sent que c'est une variable d'ajustement pour l'effectif. Donc là, oui, ça lui fait du bien. Il veut peut-être, si jamais il doit partir, il veut peut-être gagner quelque chose avant et pourquoi pas la Ligue des Champions.
Moi, je suis pas sûr qu'il parte.
Non, je dis pas que je suis sûr, mais c'est en cas de départ, ce serait bien de partir en gagnant une Ligue des Champions.
Alors, il nous reste quelques instants pour imaginer les matchs. Évidemment, il reste deux matchs demain soir. Imaginons ce FC Barcelone, il a toutes les chances. À l'heure actuelle, on va dire, et précisément, de tomber contre Liverpool. Si Liverpool, qui a 2 buts d'avance et joue à Porto, conserve cette avance et se qualifie.
Alors, je sais pas si Liverpool est le remède ou il n'y a pas de remède ni d'antidote au FC Messi, mais il y a peut-être un remède et un antidote au FC Barcelone. Et je crois que l'équipe la plus compliquée, c'est mon sentiment, l'équipe la plus compliquée à jouer pour le FC Barcelone, c'est forcément Liverpool avec son style de transition offensive rapide, qui passe notamment par les côtés, parce que les deux meilleurs joueurs de Liverpool, même si Firmino est un liant absolument exceptionnel, si vous voulez mettre en difficulté le FC Barcelone, c'est à la perte du ballon au milieu de terrain, en mettant sous pression Busquets. Alors vous avez les hommes pour ça, Anderson, Milner, Wijnaldum, Naby Keita, Fabinho, et ensuite exploser sur les côtés, et quand vous avez deux joueurs extraordinaires, deux excentrés extraordinaires
Sané,
que sont Salah et Sadio Mané, bon, ils ont des arguments pour mettre en difficulté le FC Barcelone.
Je partage totalement l'analyse de Nabil. Je pense que Liverpool a une avance suffisante pour passer contre Porto. Alors, j'ai tout le respect pour Porto, mais remonter 2 buts sans avoir marqué à l'extérieur, ça me paraît compliqué. Je vois pas tellement le FC Porto gagner 3-0 au Stade du Dragon contre Liverpool. Donc,
je m'aligne avec monsieur, même si vous connaissez mon avis par rapport à la suite. Mais en tout cas, je pense que Liverpool a plus de chances de gagner. Déjà, par rapport au match aller, c'est beaucoup plus facile.
Même si le stade des Dragons, est un stade quand même très très chaud et qui tente d'être le 12e homme. Et Porto est régulièrement en Ligue des Champions, après dans la phase éliminatoire. Mais c'est vrai que face à ce Liverpool, en plus on sait l'année dernière, ils perdent toute l'histoire de Ramos Salah. On revient d'Égypte, on peut vous dire que Ramos, je pense pas qu'il devrait aller passer ses vacances.
Ah, c'est comme si Suarez va à Accra. Hein. Je pense qu'il revient pas.
Je vais vous dire quelque chose, Annie, en Égypte, ils préfèrent Ramsès à Ramos.
Ha ha ha! On avait vérifié. Vous avez raison. Bon, puis alors cet autre match, ça pourrait être Ajax-Manchester City.
Bah moi je le sens comme ça. Je sens. Alors après c'est mon sentiment, je sais pas, mais je sens que Manchester City va renverser la vapeur. Je pense que Pep Guardiola va remettre Sterling et Leroy Sané aux affaires. Kevin De Bruyne a été excellent face à Crystal Palace. Alors évidemment il faudra faire attention à Tottenham en contre, ils ont des joueurs rapides. Son, Lucas qui a pris la place dans l'axe et il est d'ailleurs davantage plus efficace dans l'axe que sur le côté parce qu'il a moins d'efforts défensifs à faire et donc quand il fait les différences,
et puis,
il est
dans
face
l'axe,
au but.
C'est mieux, c'est tout droit.
Exactement, c'est un peu ça. Mais très sincèrement, si le rouleau compresseur de Manchester City se met en marche, je vois pas Tottenham résister.
Je mets un petit bémol, c'est pas un match classique en Ligue des Champions, c'est un match entre deux clubs du même pays, donc pour moi ça brouille un peu, c'est comme un derby. Et oui. Je donne une petite chance à Tottenham quand même, moi.
Cindy, rapidement.
Alors, ok, rapidement, je pense plutôt Manchester City et les seuls dangers que je vois de l'autre côté, c'est Son. C'est vrai qu'il a été très dangereux à l'aller. Voilà.
Merci, chers amis, d'avoir vu avec nous et partagé les analyses de ces matchs. C'est l'heure de retrouver Gilles Verdez, Bruno Constant, Chérif Guémour et Eric Chorin pour évoquer la Ligue des Champions, mais à travers les clubs français. La Ligue 1 en Ligue des Champions. La saison prochaine, ce seront donc maintenant, comme ces temps-ci, trois clubs qui accéderont à la grande compétition. Deux y accèdent directement et ce sera vraisemblablement le Paris Saint-Germain et Lille. Lille de plus en plus intouchable, bien que ce ne soit pas encore tout à fait fait. Et puis, il y aura cette troisième équipe qui doit passer par les barrages, mais évidemment être troisième, être sur le podium, c'est toujours si important. Alors, trois clubs, donc, prétendent à cette place de troisième du championnat de France. Nous avons l'Olympique Lyonnais qui tient la corde, hein, qui est juste là sur cette troisième place. Mais derrière, eh bien, il y a Saint-Étienne, les Verts sur leur talon à 3 points. Et puis l'OM, pas trop loin non plus. L'OM pas décroché à 5 points. Et les Verts qui sont dans une phase plutôt ascendante, eh bien, ils veulent y croire. Écoutons Wahbi Khazri, l'international tunisien.
Il ne faut pas non plus s'enflammer, mais continuer à avoir de l'ambition et continuer à travailler parce que c'est important. Après, on sait que voilà, ça va être compliqué parce que Lyon ne va pas perdre tous ses matchs non plus. Mais si nous, on fait notre boulot, bah, comme je l'ai dit, on leur mettra la pression. Derrière, il y a des équipes aussi qui font un peu le boulot. Marseille, Montpellier, Reims, donc... Comme je l'ai dit, ne pas s'enflammer et continuer à bien travailler, à rester serein et essayer de faire plaisir à ce public parce qu'il est exceptionnel.
Ne pas s'enflammer. Les Verts vont-ils profiter, Gilles, de on va dire, l'apathie des Lyonnais, l'irrégularité des Marseillais ou les Olympiens sont peut-être plus solides finalement ?
Pour moi, les Verts...
Il reste 6 matchs dans le championnat de France.
Oui, en fin de saison comme ça, je crois beaucoup aux effets de dynamique. Et la dynamique, elle est verte. L'enthousiasme, il est vert. Le public, il est là. La compacité de l'effectif, l'expérience de l'entraîneur, tous les feux sont au vert. C'est vrai qu'il y a encore un peu de retard. Le calendrier n'est pas mal non plus, hein, parce qu'il y aura un Marseille-Lyon, il y aura un Lyon-Lille. Ça, c'est difficile. Les Verts, c'est un peu plus linéaire. Il y a un déplacement à Monaco, déplacement à Reims. Bon, s'ils passent le déplacement à Reims, pour moi, là, ils seront lancés.
Oui, je pense aussi que Reims va être le match décisif peut-être de cette course.
Ça sera dimanche.
Effectivement,
hein.
C'est bon, Lyon,
dimanche de Pâques.
C'est Lyon qui a le plus de points, mais c'est Lyon qui a le calendrier le plus compliqué. Et surtout ces deux matchs face à Lille et Marseille.
Ils ont Lille, ouais.
Et je vois tellement pas Lyon et Marseille profiter de ces calendriers que je pense que Saint-Étienne peut s'en sortir. Ils peuvent, un nul entre Marseille et Lyon, par exemple, peut leur faire les affaires. Et donc, ça serait étonnant. Je ne suis pas sûr que ce soit bien pour le football français, même si on rêve de revoir Saint-Étienne dans cette grande Coupe d'Europe. Mais, et puis, je ne sais pas si ça récompense non plus la saison de Saint-Étienne, qui est quand même assez régulier, moi, je trouve, dans le jeu. Voilà.
Mm-hmm. Ah, les autres aussi. Hein.
Les autres aussi.
C'est notre chère Ligue 1 cette année.
Oui,
quand Marseille est encore en course pour la troisième place.
Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable.
Tout ce qu'ils ont fait.
Mais même si Saint-Étienne était européen, on se demande toujours un peu, malheureusement, avec un peu une tristesse dans le cœur, mais qu'est-ce qu'ils y feraient en Ligue des Champions, les Verts ?
Ouais.
On l'a vu un peu face à Manchester United en Europa League. Ben voilà, il y a une classe d'écart.
Non, mais après, pour revenir à Saint-Étienne, ils sont quand même dans une certaine progression. Ils n'ont jamais été aussi forts. Même s'il y a des hauts et des bas, je suis d'accord, il y a une certaine irrégularité. Mais quand on compare aux années avec notre cher entraîneur
Galtier,
On sent qu'ils ont passé le tout petit cap qui leur permettait de jouer les trois premières places. Même si, une fois de plus, c'est pas toujours très, très, très brillant. Il y a une vraie dynamique. Ils y croient. Ils n'ont jamais été aussi forts. L'OM, c'est miraculeux, ils sont encore en course avec tout ce qu'ils ont fait. Moi, personnellement, je pense que Lyon garde la corde, mais à une seule condition, c'est que moi, je pense que les joueurs ont lâché Genesio. C'est, pour moi, c'est clair. Et ça devient une anomalie de le laisser finir la saison. Et à mon avis, tout va se jouer sur le charisme de Aulas. Parce que Lyon, c'est Aulas. Donc, soit il reprend en main les joueurs et ils vont finir très fort comme ils l'ont fait ces dernières saisons. Ils sont capables de les gagner à Lille. Ça, ils sont capables de le faire. Sur le papier, ils sont capables.
Ils sont toujours capables de surprendre. On l'a vu en Ligue des Champions. Tout au long de la saison, ils ont été irréguliers aussi, mais avec des surprises incroyables.
Le problème, c'est qu'il faut que Aulas reprenne les mains parce que clairement, Genesio a été lâché par les joueurs.
Écoutons-le justement, Bruno Genesio, qui espère toujours que le fait d'avoir décidé d'annoncer qu'il ne resterait pas dans le club, quoi qu'ait pu rêver son président, Jean-Michel Aulas, eh bien, Bruno Genesio espère justement un coup de rein de ses joueurs.
Quand il y a des moments difficiles, souvent, il faut faire le dos rond, il faut continuer à être ensemble, continuer à travailler. Ce sont des périodes difficiles à vivre, mais ça fait partie aussi des périodes qu'on doit traverser ensemble et qui doivent nous permettre de retrouver des victoires dans les semaines qui arrivent.
Gilles, faire le dos rond, réagir, et en même temps, ce psychodrame depuis la demi-finale perdue de Coupe de France face à Rennes, et on dirait que ça a...
Déjà, ils avaient déjà lâché.
Ouais,
ils avaient déjà lâché.
Mentalement, c'est cassé. Alors après, Chérif disait, Aulas, moi je dirais aussi les joueurs, quoi.
Ah non, mais évidemment.
Ça va être de l'autogestion au quotidien, parce qu'un entraîneur qui annonce « je ne serai plus là », on sait très bien comment ça se passe, il est moyennement reconnu par les joueurs qui vont s'autogérer. Quels leaders à l'intérieur de l'effectif lyonnais sont capables de mener cette fronde contre eux-mêmes?
Et tu as vu que Lopez commence à s'énerver.
Oui.
C'est le gardien, il n'est pas capitaine.
Mais parce qu'il n'y a pas de leader.
Il n'y en a pas. C'est ça le problème. Fekir qui est le meilleur joueur, n'est pas un leader. Donc ça va être très compliqué.
C'est symptomatique si c'est le maintenant Lopez qui... Voilà. Après, le truc, c'est qu'il y a un paquet de Lyonnais qui jouent, je dirais pas leur avenir en équipe de France, mais ce serait bien qu'ils finissent fort. Que Lyon se qualifie en...
Awarn, Dombélé, Touza...
Fekir, mais y compris les internationaux étrangers. Hein, je veux dire, il y a
De Paille. Il va très bien quand il met son maillot orange. Et il va moins bien.
Ça suffira pas parce que lui, il aspire à jouer dans un grand club. Ouais, bah déjà, si tu veux aspirer à jouer dans un grand club, fais en sorte que tu
dans
qualifies...
Dans un club moyen.
Ah, il faut finir fort. Et y compris un gars comme Fekir, qui n'est pas encore installé en équipe de France. Donc si jamais Lyon finit fort, ils finissent troisième avec un Fekir... retrouver, parce qu'il faut qu'il se bouge aussi, là je suis d'accord avec Gilles, aux joueurs aussi de se bouger.
Ils savent que la carotte quand même est
même
belle.
Même un Denayer, on est qu'avec l'équipe de Belgique, ils ont tous des choses à démontrer. Bah,
ils ont une belle équipe en tout cas et qui est un peu plus
sur
convaincante.
Papier, ils peuvent aller gagner à Lille.
Est-ce qu'ils vont le faire pour le club, sachant qu'il y en a sans doute une bonne partie qui vont sans doute partir à la fin de la saison, aller voir ailleurs.
Mais tous les clubs c'est pareil, non ? Lille, là, quand on entend Pépé nous dire nous, l'année prochaine, la Ligue des Champions, il la jouera peut-être, mais
non,
peut-être pas à Lille.
Non, mais après,
pour
nous, tu sais comment ça se passe.
Comme ça à Lille.
Tu sais comment que ça se passe. Si t'es pas impliqué, que c'est tu joues pas les matchs à fond, tu finis par te blesser, et un Fekir qui rêve d'aller jouer en Première Ligue, s'il finit mal, s'il est blessé, s'il est même plus en équipe de France, c'est pas, il aborde pas ça, quand il aborde pas la suite de sa carrière dans les meilleures conditions. Non, mais c'est important.
J'ai du mal à croire qu'il puisse avoir le ressort psychologique, s'autogérer, finir la saison en trombe, comme si rien ne s'était passé avant. Et que j'ai lancé une super équipe qui a juste.
Que Aulas qui peut reprendre les choses en main.
Ouais. Gilles, 3 points en plus devant Saint-Etienne, c'est 5 devant Marseille, c'est presque pas beaucoup.
C'est pas beaucoup quand vous êtes sur une mauvaise dynamique. Et Annie, je voudrais juste rebondir sur une de vos problématiques tout à l'heure où vous disiez Saint-Etienne en Ligue des Champions, oui, mais pourquoi faire? Je vous répondrai, et les autres, ils font quoi? Franchement.
Lyon, alors, ils n'ont pas été ridicules en Ligue des Champions.
Non, mais ils
n'ont
pas été. Et nos clubs cette année. Voilà. Ce que je voulais vous répondre, c'est que peut-être que les Verts, avec leur enthousiasme, leur public, ça peut créer un détonateur. Parce que la faiblesse de la Ligue 1,
Comme Rennes.
Exactement. La faiblesse de la Ligue 1, elle est telle qu'on se demande ce que nos clubs vont aujourd'hui faire en Ligue des Champions. Même le PSG n'y arrive pas. Donc peut-être qu'une révolution verte, vous voyez ce que je veux dire, un retour du peuple, quelque chose d'autre,
ça peut.
Oui, mais rien ne suffit.
Une bonne équipe d'artisans là, bien solide et tout, avec de la motivation.
Voilà, quoi, mais j'étais pas ça. Pourri, ma convaincu.
Des compagnons du devoir.
Vous voyez, je suis pour les Verts maintenant.
Non. Pour la Ligue des Champions, pour le football français, vaut mieux Lyon. Ils savent faire. Et non, c'est Lyon et que Lyon.
Terminons quand même en évoquant...
De l'intérêt supérieur du football national.
Oui, alors on va évoquer un autre Olympien, Chérif, parce qu'il y a aussi...
On n'a pas parlé de Marseille.
Voilà, l'Olympique de Marseille qui quand même, avec sa victoire à l'arraché, mais sa victoire quand même, eh bien, reste dans le jeu pour ce qui était de sa victoire ce week-end. On a vu Luis Gustavo revenir à un plutôt bon niveau. Dimitri Payet quand même qui était aussi là sur la pelouse. Est-ce que ça veut dire qu'eux sont en train de se mobiliser, peut-être aussi autour d'un entraîneur qui ne restera pas, mais de décrocher par orgueil cette place en Ligue des Champions?
Bah, je pense Bruno. Surtout qu'ils doivent se dire, après la telle saison pourrie qu'on a fait, on est encore en course à 6 journées de la fin. C'est juste un miracle. Mmh. Et peut-être que si on est un peu sérieux, peut-être que si on se lie un peu tous ensemble, on va peut-être y arriver, coiffer Lyon sur le poteau. Et ça serait juste extraordinaire.
Mais pas Saint-Étienne.
Non mais c'est peut-être ça, pas Saint-Étienne, mais c'est juste extraordinaire. Après, moi, je le souhaite pas. J'espère qu'ils vont vraiment se casser la gueule, parce qu'il faut qu'il y ait une reconstruction dans ce club. Il faut qu'il y ait un changement d'entraîneur. Moi, j'espère que les dirigeants iront voir du côté de l'Amérique du Sud, notamment un certain Marcelo Gallardo.
Ah, je croyais que vous alliez dire Marcelo Bielsa.
Non. Mais d'aller chercher un vrai entraîneur qui a un vrai programme, une vraie identité de jeu.
Il fait les 100 pas. Hein.
Bah, il a envie, de venir en Europe. Et pour Marseille, je pense que
c'est la filière argentine.
Ça pourrait être sympathique comme mariage.
Il reste quand même 5 points et une différence de but moins bonne.
La différence de but peut faire la différence.
Du championnat est proche. Ça va être difficile de remonter quand même, effectivement, sur Lyon et sur Saint-Etienne pour Marseille. Après, eux, leur problématique, c'est qu'effectivement, ce sont des miraculés, mais je crois qu'à l'intérieur du club, il n'y a pas une osmose formidable. Il y a des joueurs qui se demandent ce qu'ils font là, qui ne suivent plus tout à fait les consignes de leur entraîneur. Est-ce qu'il y a une flamme?
Ouais.
Est-ce que ce n'est pas au contraire une équipe où tous les joueurs savent qu'il va y avoir tellement de changements qu'eux-mêmes vont partir? Est-ce que là, l'amour du maillot se batte pour le club? Je ne suis pas sûr que ça puisse
changer les marchés. Les déclarations de Thauvin la dernière fois prouve d'ailleurs ça, hein, qu'ils vont pas se battre les uns pour les autres, que c'est en train de s'exploser, que chacun va partir à droite à gauche. Et...
Ouais, moi, je suis d'accord
avec
Gilles.
Mais la flamme peut peut-être venir des tribunes du Vélodrome, Chérif.
Elle peut venir des tribunes du Vélodrome, mais déjà, elle devait venir de l'effectif lui-même, parce que quand on regarde l'effectif de Marseille, froidement, sur le papier, en début de saison, moi, je me suis dit qu'ils allaient faire quelque chose. Alors, pas gagner le championnat, ou peu importe, faire une grande Coupe d'Europe, mais sur le papier... En plus, il y a un peu de réserve sur le banc, ce qui est pas le cas de Saint-Étienne.
Oui, puis au vu de ce qu'ils avaient montré l'an dernier,
ça n'a pas fonctionné. On l'a vu que ce soit, dans les compétitions nationales ou en Coupe d'Europe, ça n'a fonctionné à aucun moment. Donc non, j'y crois plus. Mais après, mais sur le papier, quand on regarde le 11 de base, c'est pas rien.
Eric.
Non, mais je me disais quand même que pour juste faire plaisir à David Finzel, hein, qui attend ça depuis longtemps, il attend ça depuis 1982, un podium pour Saint-Etienne, déjà en championnat, ce serait déjà pas mal. Il y a des petits plaisirs comme ça, tout simple.
Oui, mais il espère déjà une qualification en Ligue des Champions pour
Il reste beaucoup. Mais... Oui.
Et si les poteaux étaient ronds ou carrés aussi, ben voilà, c'est là que ce serait pas brisé à Glasgow. Ouais.
Qui voyez-vous aller comme troisième pour terminer?
L'outsider Saint-Etienne, allez.
Saint-Etienne, ouais. Chérif Guémour.
Lyon après une remise, une reprise en main de Aulas. S'il n'y en a pas, de toute façon, ils peuvent finir septième, attention, c'est aussi ça que je veux dire.
Oui.
Ce que je sous-entends, c'est ça. C'est que...
Depuis ce match perdu en Coupe de France,
Genesio a été lâché, donc j'ai du mal à croire qu'ils vont l'écouter encore.
Bruno ?
Je n'étais pas convaincu, mais Gilles m'a convaincu.
Alors Saint-Etienne !
Je pense que Saint-Etienne va profiter de Lyon et Marseille qui vont se couler l'un et l'autre avec ce match au Vélodrome. Et les Verts vont en profiter. Et comme les Verts ont en plus une différence de but qui n'est pas désagréable, ils peuvent vraiment coiffer les Lyonnais.
Plus 11 pour Saint-Etienne, plus
13 pour
les Verts. Et Cazerie se remet à marquer.
Et quand on connaît en plus l'antagonisme entre ces deux clubs, ce derby toujours aussi chaud, les uns chantant contre les autres, enfin, c'est une vraie mise en scène. Et vous, Eric Chorin, vous misez sur qui?
Pour faire plaisir à David sur Saint-Etienne. Et puis en plus, je ne connais pas le sens, le mot opposé à dynamique. Vous parliez de la dynamique de Saint-Etienne. Lyon, c'est une dynamique aussi, mais tellement dans l'autre sens que j'ai vraiment du mal à l'y croire.
Une anémie. Spirale négative.
La spirale, tout à fait.
Mais il n'y a plus de ressort.
Debouchy veut revenir en équipe de France.
Et voilà, c'est la fin de ce Radio Foot international. Merci messieurs.
Merci Annie,
on rappelle quand même le score de la soirée, et surtout l'exploit de la soirée, celui de l'Ajax Amsterdam qui a battu... La Juventus.
La Juve chez elle, 2-1.
2-1, exactement. Alors que le Barça, tranquillement, grâce à un doublé Lionel Messi, eh bien, s'est qualifié sur un score de 3-0 en éliminant Manchester United. Ça promet Du beau spectacle, hein, ce petit Ajax pour la suite de la compétition.
C'est plus qu'un bol d'air frais, c'est presque une réconciliation avec le football.
C'est une grande lessive sur la Ligue des Champions.
Ils vont gagner la Champions League, je l'ai dit ici. Hein.
On verra ça. Merci à tous et à demain.